rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture avec nos trois mousquetaires, Eva Roque, Antoine Janton et Louise Bernard. Ils sont évidemment quatre, puisque vous retrouverez pour la dernière fois de la semaine Jean-Luc Lemoine pour son écran de veille avant le retour lundi de Bertrand Chameroy. Nos indispensables, une mini-série et de la street food, c'est-à-dire de la nourriture de la rue, mais rien qu'avec des chefs étoilés. Notre infomédia va se pencher sur un héros qui a réellement existé via un documentaire d'Arte, la véritable histoire de D'Artagnan. Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui a été romancé par Alexandre Dumas puis par le cinéma? Vous apprendrez par exemple que la devise des mousquetaires n'était pas un pour tous, mais tous pour un, mais une autre encore plus forte. Puis nos invités, Agathe Le Caron pour une nouvelle émission, Bel et Bien sur France 2, c'est le samedi matin. Une émission consacrée au bien-être. Il y en a plein à la radio, ça n'existait pas en télévision. On va lui demander pourquoi. Enfin, l'humoriste, youtubeuse, chanteuse Lola Dubini qui sort son premier album, Je te le dis, c'est le titre. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire du dernier journal des médias de cette semaine.
Encore des nouveautés ce matin, une nouvelle application pour écouter la radio, une nouvelle compétition et pas la moins connue sur la chaîne L'Équipe, et puis un documentaire en immersion avec les pompiers de Paris. Vous n'avez jamais vu un incendie comme cela.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, est-ce que ça a chauffé, pour faire le lien avec l'incendie, qu'ont regardé les Français hier soir?
C'est malin.
Alors, c'est pas très étonnant, c'est le retour de Léo Mattei qui a cartonné. Mattei, Brigade des mineurs. Attention.
On lui a porté chance.
Ah, roulement de tambour.
Il était notre invité hier, Jean-Luc Reichmann. Alors, la moyenne des deux épisodes inédits, 5 300 000 téléspectateurs, c'est un très bon retour. C'est mieux que les deux dernières saisons. 24,2% de part d'audience. Ensuite, c'est M6 avec le film Seven Sisters, un film de science-fiction. 2 850 000 téléspectateurs, 13,5% d'audience. Ce qui permet aussi à M6 d'être leader en ménagère. Vous savez, c'est la cible commerciale, ce qui est très important pour les chaînes privées.
Parce que ce sont elles qui font les courses.
Oui, et c'est elles qui rapportent l'argent pour la publicité, pour les chaînes surtout.
Voilà.
Ensuite, c'est France 2 avec Envoyé spécial qui a un bon niveau. C'est son deuxième meilleur score de 2021. 2 millions de téléspectateurs. 9,2% de part d'audience. En fait, le film de France 3 n'a pas marché du tout. Le film non-stop, 1 430 000 téléspectateurs, 6,4%. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude, les films, c'est autour de 9%, 2 millions, parfois plus de 2 millions. Donc ça n'a pas marché pour France 3. À noter un bon score pour C8, 1 170 000 téléspectateurs pour le Prime Love Story, qui fêtait l'anniversaire donc, de cette télé-réalité, qui fêtait ses 20 ans, et 5,3% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une une petite révolution dans le monde de la radio.
Oui, le lancement d'une nouvelle application gratuite pour écouter la radio. Elle s'appelle Radio Player France. Elle a été officiellement mise en ligne hier à l'initiative, et c'est ça aussi qui est rare, de la quasi-totalité des radios, dont Europe 1. Radio Player France est un poste de radio numérique en quelque sorte, disponible sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les enceintes et les téléconnectés. Vous pouvez y choisir la station de votre choix parmi les grandes radios nationales privées et publiques, mais aussi parmi 130 radios indépendantes et 600 web radios.
Oh là là.
À votre disposition également 100 000 podcasts, dont ceux d'Europe 1, le tout sans publicité, enfin en dehors de celle qui est à l'antenne, bien sûr.
Les podcasts qui sont de plus en plus écoutés.
Oui, près de 114 millions de téléchargements le mois dernier, selon l'étude mensuelle de Médiamétrie. 14 millions pour Europe 1, qui place 4 de ses podcasts dans le top 30. Historiquement Vôtre, Au cœur de l'histoire, La revue de presse de Nicolas Canteloup et On de la raconte, 3e du classement et toujours premier podcast de récit.
Voilà, et puis Culture Média, le podcast existe. On n'est pas encore dans le top 30, mais on va y venir. Une nouvelle compétition sur la chaîne L'Équipe.
Ouais, pas n'importe laquelle. Hein. Les 24 heures du Mans, l'une des plus grandes courses automobiles au monde. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Philippe.
Ouais. J'ai vu ça hier soir.
La chaîne sportive vient d'en shipper les droits à France Télévisions pour les 3 prochaines années. Le prix reste secret. L'équipe va diffuser l'épreuve jusqu'en 2023. Année importante, hein, puisque ce sera le centenaire des 24 heures, avec le retour annoncé de quelques marques mythiques, Ferrari, Audi notamment. Alors diffuser cette compétition réjouit forcément le directeur de la chaîne, Jérôme Saporito.
Le Mans, c'est un mythe. C'est premium, c'est populaire, c'est patrimonial. Il y a une touche de glamour. Il y a tous les ingrédients qui font le sel du sport automobile, et en plus c'est en France. Il y a une dimension très française qui nous intéresse beaucoup à la chaîne L'Équipe, d'être cette chaîne qui parle à son public. Tous les fans de sport automobile savent bien qu'il y a le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et Le Mans. Voilà, et bah écoutez, on aura la chance de diffuser l'un des trois grands rendez-vous de sport automobile sur la chaîne L'Équipe, et ça c'est une fierté.
Avec les 24 heures du Mans, L'Équipe comble un vide. Hein. C'était la seule course du championnat du monde d'endurance qu'elle ne diffusait pas. Toutes les autres sont sur la chaîne, un argument qui a sans doute pesé hein, face à France Télévisions. Qui présentera, qui commentera la compétition? Pas encore de réponse. Le dispositif n'est pas tout à fait défini, mais il y aura du monde.
On sait voilà, qu'il y aura une cinquantaine de personnes qui seront mobilisées pour la chaîne. Après, il y a toutes les personnes qui seront dédiées sur le site. Et puis il y a le journal, parce que c'est vraiment trois supports qui vont se mettre à l'heure du Mans. Voilà, donc c'est pour la chaîne une cinquantaine de personnes, avec un monsieur ou une madame Le Mans qui sera l'incarnant principal et qui va lui aussi ou elle aussi vivre 24 heures cette course. Après, les noms, bah, écoutez, on va commencer à passer des coups de fil. Il y aura, on va dire, 5-6 commentateurs ou consultants, parce qu'il faut commenter toutes les courses.
Voilà, il y a des téléphones qui vont chauffer dans les jours qui viennent, les 24 heures du Mans sur la chaîne L'Équipe. Rendez-vous les 21 et 22 août prochains.
BFM aura bien des chaînes locales sur la Côte d'Azur.
Le CSA vient de valider le rachat d'Azur TV, annoncé début février. Feu vert donc donné à Altis, la maison mère de BFM Région, qui va reprendre les chaînes d'Azur TV et poursuivre ainsi son développement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel explique que cette acquisition ne compromet pas le pluralisme et l'intérêt du public.
Un documentaire événement sur les pompiers de Paris, ce sera dimanche soir sur M6.
Un documentaire événement parce que son réalisateur Manuel Lègre les a suivis pendant un an dans leur caserne, sur le terrain, notamment sur les lieux de l'attentat au hachoir commis devant les anciens locaux de Charlie Hebdo en septembre dernier. Documentaire en immersion donc au plus près de ces militaires, dans les véhicules de secours ou dans les bâtiments en flammes. Manuel Lègre.
J'avais du mal à imaginer un documentaire sans être à leur côté alors qu'on parle d'immersion. Une immersion, on les colle au maximum. Au début, on a pensé aux caméras embarquées, mais ce sont des choses qui sont déjà utilisées par d'autres réalisateurs dans d'autres documentaires. Et surtout, ce système ne permet pas d'avoir la réaction des pompiers. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était pouvoir les filmer, les questionner en fonction de la situation. Et je me dis que si eux, ils rentrent, moi, je peux rentrer après une formation. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais c'était vraiment tout l'enjeu du documentaire.
Enfin, c'est pas si simple que ça, effectivement, hein, comme le dit Manuel Lègre, une condition quand même pour pouvoir tourner aussi près des pompiers, cette formation, faire une formation, 10 jours pour se familiariser avec les flammes, la fumée, la chaleur, c'est ça qui n'est pas facile. Ce n'est qu'après qu'il a pu suivre les pompiers sur tous les incendies, des images particulièrement impressionnantes, je vais y arriver, et difficiles à tourner.
Il ne fallait pas déranger, évidemment, les pompiers qui étaient là pour éteindre le feu, qui étaient là aussi pour sortir les victimes. Et puis, il fallait trouver le meilleur endroit pour avoir une image exploitable à cause des fumées, à cause de l'eau. Et les lances à incendie déversent, les plus petites déversent 200 litres par minute. Forcément, ça revient un peu sur vous. D'un point de vue technique, c'est pas évident à gérer. En plus, les fumées, la chaleur, toutes ces choses-là. Et puis, vous qui devez garder le cap en suivant vos personnages, en posant des questions, en ayant vraiment les réactions sur le vif. Les premiers instants sont effrayants. L'odeur, les visages des personnes qui sortent, et puis surtout vous allez à contre-courant. Donc vous croisez les personnes qui fuient, apeurées, et puis vous, bah, vous allez dans l'autre sens.
Voilà, vous n'avez jamais vu un incendie de cette manière-là. Manuel Lègre, réalisateur du documentaire Pompiers de Paris, un an au cœur d'une unité d'élite, c'est dans Zone Interdite, après-demain dimanche à 21h sur M6.
Business, Twitter a bien failli racheter Clubhouse.
Le réseau social aurait proposé près de 3,4 milliards d'euros pour acheter la jeune application. Elle a à peine un an. Hein. Elle propose de communiquer via des salons audio, on vous en avait parlé ici, mais les discussions n'ont pas abouti, selon Bloomberg, sans qu'on sache qui y a mis fin et pourquoi. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Twitter travaille sur une fonctionnalité qui serait en tout point semblable à Clubhouse.
Moi, je peux vous dire, à 3 milliards 2, j'aurais vendu. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard, qui elle aussi aurait vendu même à 3 milliards 1.
Oui, même à 100 euros, je crois.
On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant, notre info média du jour avec un focus sur D'Artagnan, personnage emblématique de la littérature d'Alexandre Dumas. Et derrière ce mousquetaire se cache un homme qui a réellement existé. Nous en parlons avec Augustin Viat, il est réalisateur du documentaire d'Arte, La véritable histoire de D'Artagnan. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est un homme à la destinée singulière dont nous allons parler ce matin, D'Artagnan. Un homme à la fois universel et mystérieux, plus connu pour ses aventures fictives que pour ses faits d'armes réels. Et c'est cela que tente de corriger un documentaire diffusé demain soir sur Arte, le titre « La véritable histoire de D'Artagnan ». Une enquête historique qui
qui dresse le portrait de ce mousquetaire connu dans le monde entier, un enfant de Gascogne à l'ascension fulgurante, jusqu'à devenir l'homme de confiance du souverain le plus puissant d'Europe, Louis XIV. Bonjour Augustin Viat.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, écrit avec Caroline Vermal et Jean de Garrigue. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la vie du vrai D'Artagnan, le faux D'Artagnan ?
C'est peut-être le faux D'Artagnan, en tout cas c'est l'effet de frontière ou de contraste entre les deux. Bien sûr, il y a cette figure populaire qui est très excitante, qu'on croit tous connaître. Et quand on m'a proposé de faire ce film, puisque c'est Stéphane Milliard, le patron de Gédéon Programme, qui me l'a proposé avec Arte, moi j'ignorais que D'Artagnan avait vraiment existé. Donc il y avait la séduction du cinéma, et puis derrière le mystère de l'histoire, l'enquête qu'il fallait mener pour arriver à l'identifier et à remonter toutes les pistes qui pouvaient mener à ce personnage historique.
Évidemment, dans votre film, il y a des images de cinéma. Alors, en quelques mots et sans dévoiler tout votre film, est-ce que vous pouvez nous situer D'Artagnan dans l'histoire ? Qui était-il ?
C'était un Gascon, d'abord, au tout début du XVIIe siècle. C'était un enfant de la campagne. Et à l'époque, la Gascogne était une région très pauvre. Et la seule perspective d'avenir pour les jeunes paysans, c'était de monter à Paris et d'intégrer les armées du roi. Donc toute son histoire s'inscrit au fil de ce XVIIe siècle français qui est une période très tourmentée avec une contestation du pouvoir royal, une période de bascule sur laquelle on reviendra peut-être qui s'appelle la Fronde, qui est comme une espèce de mini-révolution française avant l'heure. Et D'Artagnan va connaître une ascension sociale fulgurante, puisque ce petit paysan de Gascogne va devenir l'homme de confiance de Louis XIV, qu'il a connu quand il était encore enfant, puisque il y a eu toute cette période de régence après la mort de Louis XIII, où Louis XIV était trop petit pour prendre le pouvoir.
Alors, votre film est construit comme une enquête menée par plusieurs historiens, par une historienne en particulier, on va y revenir. Et cette enquête, vous la commencez avec un livre, celui qui a fait connaître D'Artagnan dans le monde entier, « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Que dit Dumas de D'Artagnan ?
Dumas, il en fait un personnage virevoltant, flamboyant, séduisant, un séducteur un peu insouciant, un aventurier, charmeur. Mais ce qui est amusant, c'est que Dumas lui-même s'est inspiré d'un autre livre. Et que quand il commence son bouquin, il va déjà se réapproprier un personnage.
Exactement. Et ce livre, ce sont les mémoires de Monsieur D'Artagnan de Courtil de Sandras. On se dit alors, c'est simple, D'Artagnan a fait écrire ses mémoires, on va tout savoir de lui. Eh bien, pas du tout. Et c'est ce qu'explique l'un de vos historiens enquêteurs, Jean-Christian Petit-Fils.
C'est un roman un peu picaresque, avec des aventures singulières qui arrivent à D'Artagnan. Mais en réalité, c'est un récit écrit à la première personne qui est très romancé parce que Courtil ne dispose pas de suffisamment de matériaux pour écrire une vie authentique de D'Artagnan.
Et là, donc, on se dit que l'enquête va pas être simple puisqu'on n'a pas assez de matériaux.
C'est-à-dire que ce livre, Les Mémoires de D'Artagnan, à la fois, il contient des indices qui sont bien réels. Il a été écrit en 1700, donc à peu près 25 ans, 27 ans après la mort du vrai D'Artagnan. Et en même temps, son auteur, Courtil de Sandras, romance lui-même l'histoire. C'était une sorte de biographe de l'époque qui faisait des biographies romancées des personnages historiques de son temps. Et il multiplie des intrigues totalement farfelues qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que Dumas trouve ce livre par hasard. Il le déniche dans une bibliothèque. Il le parcourt rapidement, il voit les noms de Athos, Porthos, Aramis, qui était d'ailleurs le premier titre des Trois Mousquetaires, et il se dit, tiens, ça me paraît intéressant, mais à ce moment-là, il travaille sur des tas de projets différents, il a plein de collaborateurs, et il revient à Paris, il donne ses volumes des Mémoires de D'Artagnan à l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle Auguste Maquet, en lui disant, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on peut pas faire un truc avec ça? Et l'autre lui dit, oui, c'est très intéressant, il faudrait souligner le côté historique, amener les personnages de l'époque, etc. Et il va en faire complètement autre chose, parce que Dumas, c'est un génie.
Athos, Porthos et Aramis, dont je pensais qu'ils avaient été inventés comme Riri, Fifi et Loulou, alors que je savais que D'Artagnan avait réellement existé. On vient d'entendre l'un des historiens que vous interrogez dans le documentaire, et également Julien Villemart, spécialiste des mousquetaires, et puis Odile Bordaz, qui est en quelque sorte le pivot de votre film. C'est avec elle que vous allez sur les terres natales de D'Artagnan en Gascogne. C'est elle qui nous parle de son enfance, celle de D'Artagnan, grâce à un documentaire historique, l'inventaire des biens de la famille. Il est dressé après la mort du père de D'Artagnan en 1635. Que nous apprend cet inventaire?
Alors, c'est un des documents, effectivement, qui nous renseigne beaucoup. À l'époque, quand un personnage mourait, on dressait la liste de ses biens. Et à travers cette liste exhaustive de tout ce qui était dans la demeure familiale de D'Artagnan, on comprend le mode de vie de la famille à l'époque. On comprend quelle pouvait être l'éducation des enfants. Et Odile Bordaz, qui est une historienne totalement passionnée, habitée par ce personnage, moi je la soupçonne d'être presque amoureuse de D'Artagnan, elle est infatigable, elle continue à chercher aujourd'hui. En décryptant ce document, elle arrive à en tirer des conclusions, des informations sur ce que pouvait être notamment l'enfance de D'Artagnan, ce qui est un épisode que Dumas ne traite pas dans le roman.
Alors, à son enfance, à son adolescence, D'Artagnan ne s'appelait pas encore D'Artagnan, mais comment s'appelait-il? Réponse juste après ça. On continue d'en parler avec vous, Augustin Viat. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, La véritable histoire de D'Artagnan. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel. 9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Augustin Viat, réalisateur de La véritable histoire de D'Artagnan. C'est un documentaire qui va passer demain soir à 20h50 sur Arte et qu'on peut voir dès maintenant sur arte.tv. On l'a dit, enfant, adolescent, D'Artagnan ne s'appelait pas encore D'Artagnan, mais Charles de Batz de Castelmaur. D'où vient le nom de D'Artagnan? Réponse d'Odile Bordaz dans son récit, dans le récit de cette historienne. On est alors en 1633 et le jeune Charles vient d'être accepté dans la compagnie des mousquetaires.
Il va être présenté au roi Louis XIII, au Louvre, et c'est Louis XIII qui, à ce moment-là, aurait demandé au jeune Charles de prendre le nom de D'Artagnan, qui est le nom de sa famille maternelle, bien connu à la cour, ce qui, évidemment, pour un jeune gentilhomme, même venant d'une province déshéritée, c'est une chance inespérée.
Donc voilà, D'Artagnan, mousquetaire du roi, c'est là qu'il rencontre, alors encore de la taxinomie des noms, Athos, Porthos, Aramis, les trois mousquetaires, ils ont réellement existé, vous nous l'avez dit, ils ont réellement existé sous ce nom-là?
Alors ils ont existé presque sous ce nom-là, il y a des petites variations, en fait, Dumas a un peu adapté leur nom. On n'est pas persuadé que D'Artagnan les a... connus, ou en tout cas qu'il était leur meilleur pote. On sait qu'ils étaient dans la compagnie, et ils étaient tous les trois, tous les quatre avec lui, originaires de Gascogne, donc de Gascogne ou du Béarn.
Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur eux, ils ont une image romantique, de combattants virevoltants. Qui étaient-ils et quel était leur rôle?
Les mousquetaires en général, et Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan lui-même, sont tous, quand ils arrivent à Paris, ce qu'on appelle des cadets. C'est-à-dire qu'ils doivent, des cadets de Gascogne, ils doivent faire leurs armes, faire une sorte d'apprentissage d'école militaire avant d'intégrer les rangs des mousquetaires. Et les mousquetaires sont la garde rapprochée du souverain. À l'époque, c'est Louis XIII, hein, au début, au milieu des années 1630. Et D'Artagnan devient mousquetaire sous Louis XIII, même si l'essentiel de sa carrière va se faire sous Louis XIV.
Ils ont une image romanesque, romantique, et on découvre dans votre film que c'est aussi des jeunes hommes, des hommes jeunes, mais violents quand même.
Oui, c'est ce que nous explique notamment Olivier Renaudot, qui est un merveilleux conservateur du musée de l'armée. Il nous dit ils sont turbulents, il logeait chez l'habitant à Paris, donc ça il faut imaginer, il logeait chez les bourgeois, c'était une forme d'impôt, on devait loger comme ça des militaires, et ils étaient querelleurs, batailleurs, ils faisaient beaucoup de bruit.
Ouais. Et puis on apprend aussi, alors là aussi je tombais de ma chaise, que leur devise n'était pas un pour tous pour un.
Non, la vraie devise de la compagnie dans laquelle D'Artagnan était, la compagnie mousquetaire, c'était en latin « Quoruit et letum », ce qui veut dire « là où elle passe, la mort s'abat ». Et c'était une devise représentée par un blason avec un mortier, donc un canon qui tire un boulet et qui va tomber sur une ville assiégée. Et c'est une devise qui exprime bien toute la violence en fait de ce corps militaire. Les mousquetaires, c'est pas seulement le romantisme que Dumas leur prête, c'est la force armée, le bras armé du pouvoir.
Et vous citez notamment le fait que D'Artagnan ait participé à un massacre, celui commis lors de la répression d'une révolte dans le Vivarais, ce qu'on a appelé l'Ardèche aujourd'hui. Alors D'Artagnan a des qualités militaires, des qualités humaines, il est remarqué par Mazarin, dont il devient un homme de confiance, notamment pendant la Fronde dont vous parliez. À cette époque, il transporte des lettres, des messages codés qu'on voit dans votre documentaire. Mais au-delà de ce code, et comme souvent avec les archives, c'est pas facile de trouver le nom de D'Artagnan. Exemple avec cet extrait dans lequel on entend Jean-Christian Petit-Fils et l'historienne Camille Desenclos.
Je pense que nous n'avons pas D'Artagnan ici.
On va bien finir par le trouver, ce D'Artagnan, quand même.
Oui.
Parce qu'il était au cœur de tout le dispositif. Ah, bon. Voilà. D'Artagnan, HR 130, 56, 105.
X. Donc là, on est sur une dépêche donc, du 11 juin 1653, très clairement rédigée par Mazarin. Donc, je vous prie de dire à D'Artagnan qu'il prenne ses précautions afin qu'il ne lui arrive pas quelques malheurs.
Non, c'est ça où vraiment les choses sont très intéressantes pour l'historien, parce que on voit le cachet. Moi, ça m'est arrivé de voir de la poudre d'or ou de poudre de sable qui est restée. Là, on touche vraiment très près l'histoire.
Oui, hein. Oui.
Vous étiez à côté, Augustin Viat, avec la caméra. C'était également émouvant pour vous de voir ces archives.
C'est merveilleux les archives, c'est une chance, ça fait partie des grands bonheurs de mon métier, d'assister, de découvrir des documents comme ça, surgis du passé, le bruit du papier, on ouvre ces gros volumes, et là en l'occurrence ce sont des lettres codées, donc tous les noms des personnages sont remplacés par des numéros, il faut arriver à déchiffrer tout ça, et on se dit, voilà, ça vient du XVIIe siècle.
Attendez, vous l'avez découvert en temps réel ?
Non, on savait qu'il y avait...
Vous doutiez qu'il y allait avoir quelque chose là.
Oui, mais par contre, on ne savait pas exactement dans quel volume, et puis il fallait retrouver le nom de D'Artagnan, et même si Jean-Christian Petit-Fils a consulté ses documents à plusieurs reprises, moi j'ai pris un malin plaisir à ne pas lui indiquer la page sur laquelle se trouvait le nom du personnage, pour qu'il puisse tourner les pages du volume en cherchant vraiment. Donc là, c'est pas de la simulation.
Alors, il y a peu d'archives sur D'Artagnan. Il y a une archive qui apporte beaucoup d'éléments, beaucoup d'infos sur lui. Ce sont les minutes du procès de Nicolas Fouquet, l'ancien ministre des Finances de Louis XIV.
C'est D'Artagnan qui est chargé de cette arrestation délicate.
Il a fait de l'ombre au souverain. Et Louis XIV, par une lettre de cachet, a décidé de l'enfermer, de le faire disparaître de la circulation.
De l'arrêter, etc. Pour une raison simple, c'est que Fouquet, dont on connaît le magnifique château de Vaux-le-Vicomte, dans lequel tous les entretiens du film ont été tournés, tous ces beaux décors qu'on voit derrière nos historiens, c'est à Vaux-le-Vicomte. Fouquet était très riche, il avait ce magnifique château, à l'époque Versailles n'existait pas, et Louis XIV se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ministre
Il
s'est senti presque humilié, et aussi menacé dans son pouvoir.
J'en viens à D'Artagnan, D'Artagnan l'arrête et le garde.
Il le garde, il va devenir son geôlier pendant plus de 3 ans, ce qui n'est pas forcément une mission très amusante. Hein. Le geôlier d'un prisonnier, c'est presque être prisonnier soi-même. Donc pendant près de 3 ans, il va assurer la garde de D'Artagnan et il va se montrer à cette occasion particulièrement humain. et bienveillant, attentif aux besoins de son prisonnier, même s'il exerce une garde sévère et rigoureuse. Il va lui donner ce dont il a besoin et rester à ses côtés toute cette période.
Alors, vous avez dit qu'il était dur, c'est aussi ils exécutaient les basses œuvres, ces mousquetaires. Il était humain. On va revenir aussi à l'image populaire, romanesque, des mousquetaires créés par Alexandre Dumas. Des séducteurs, des hommes volages, c'est sous ces traits que D'Artagnan est présenté dans Les Trois Mousquetaires, puis dans les films qui ont été tirés du livre. Est-ce que c'était réellement un séducteur ?
Ça, on a du mal à le savoir. La théorie d'Odile, c'est de dire que s'il avait eu des aventures extra-conjugales ou des amantes à droite à gauche, on en trouverait la trace dans les archives de l'époque, et c'est pas le cas.
Ouais.
Donc on sait qu'il était marié, il s'est marié assez tard. Après, c'est un militaire qui sillonnait les provinces françaises. On sait que c'était un bon vivant. C'était pas le dernier à faire la chouille, à boire des bons coups avec ses hommes, avec sa compagnie. Et certainement que il a dû connaître d'autres femmes que son épouse.
Il était marié avec Charlotte Anne de Chancy, son épouse. Je vous cite, une femme trop amoureuse de son mari, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que D'Artagnan l'a épousée parce qu'elle c'était une bourgeoise de Bourgogne qui avait de la fortune. D'Artagnan, lui, avait peu d'argent, ou en tout cas dépensait énormément, notamment pour ses hommes, parce que c'est lui qui s'occupait des costumes, d'acheter des accessoires pour sa compagnie, pour que ses mousquetaires soient prestigieux. Et cette femme était un peu envahissante, d'après ce qu'on sait. Elle le suivait partout. Et au bout d'un moment, D'Artagnan a demandé à Louis XIV de la renvoyer sur ses terres de Bourgogne.
D'un mot, on ne sait pas où il est enterré, mais votre enquête mène à un lieu qu'on ne va pas dévoiler. Il faudra regarder votre documentaire pour le savoir, où est enterré D'Artagnan. Merci beaucoup, Augustin Viat. La véritable histoire de D'Artagnan, demain soir à 20h50 sur Arte, à voir dès maintenant sur arte.tv. Doc, dont le texte est dit par Benjamin Laverne, dont on parlera tout à l'heure dans l'émission de la Comédie Française, qui ne gâche rien. Et j'apprends que la chouille est un mot gascon, ce qui n'est pas vrai, mais je le dis quand même. Dans un instant, nous serons avec Agathe Le Caron pour bel et bien nouveau programme entièrement consacré à bien-être. C'est une nouveauté sur France 2. Culture Média continue.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Agathe Le Caron.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes la présentatrice de la Maison des Maternelles qui a redémarré pour une 19e saison, non plus sur la 5 mais sur la 4, on va en parler. Mais d'abord, comme hier, avec Jean-Luc Reichmann, notre invité qui est en ce moment touché par le Covid, un point santé. Vous avez été cas contact à un moment donné, vous avez fait l'émission
deux
à
fois.
Distance. Tout va bien de ce côté-là.
Ah bah écoutez, oui, sinon je ne serais pas là, non, voilà. Je ne vous mettrais pas en danger Philippe.
Voilà, mais je voulais rassurer les auditeurs. Alors, votre actualité, c'est une nouvelle émission qui s'appelle Bel et Bien. C'est sur France 2 le samedi matin à 10h, très exactement à 9h55. C'est co-présenté avec Ali Rebéi. C'est quoi le principe ? C'est de la santé ou c'est du bien-être ?
Ah, c'est du bien-être. C'est pas, enfin, cela dit, évidemment, les deux sont liés, mais c'est vraiment le mieux-être. Voilà, comment mieux vivre, comment mieux être. Et puis aussi, c'est une réflexion sur notre état d'être. Comment on vit dans notre société, comment on peut changer des choses et comment on peut mieux vivre.
Ça pourrait être une émission politique. Comment on vit dans notre société,
absolument,
changer des choses
Philippe
et mieux
Vendel.
Vivre. Et c'est pas une émission politique, je dis ça pour l'avoir vue.
Non, pas du tout.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette émission ?
Alors, on y trouve de la philosophie, de la psychologie, on y trouve des astuces, on y trouve de la réflexion et on y trouve des chroniqueurs qui nous aident à faire tout ça.
On va parler de votre équipe. Vous avez dit dans une interview, l'idée, c'est de ne pas culpabiliser. C'est une émission anti-injonction. Mais je me suis dit, mais aucune émission décide de nous culpabiliser. Moi, je ne connais pas d'émission injonction. Vous en connaissez, vous, des émissions qui donnent des ordres ?
Alors, moi, je connais en tout cas une société qui donne des injonctions absolument dans tous les domaines. Dans la parentalité, par exemple, c'est un endroit où sont concentrées les injonctions. Où on nous culpabilise en nous disant, il faut allaiter, il faut... Voilà.
Et les injonctions inverses.
Et les injonctions inverses, évidemment.
Parfois, il ne faut pas allaiter, ce n'est pas grave.
Voilà. Non, mais en tout cas, nous, dans les maternelles, c'est vrai qu'on essaye de déculpabiliser tout le monde. Et dans Bel et Bien, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas le temps de faire du yoga, vous n'avez pas le temps de respirer, de marcher en forêt. C'est pas grave, on va vous donner aussi des moyens de détourner. Faites-le 3 secondes déjà, ça sera toujours mieux que rien.
Il n'y a pas de public, mais il y a une bande assez étoffée. Vous n'êtes pas toute seule dans un désert. Il y a deux invités et des chroniqueurs. Qui sont vos chroniqueurs ? Quelle est votre équipe ?
Alors, j'ai un co-animateur déjà formidable, Ali Rebéi, qui est le spécialiste du bien-être en France, qui est absolument fantastique et omniscient, je dirais. dirais, sur la matière. On a Elsa Wolinski, nouvelle venue, qui est formidable parce que totalement sans filtre et qui nous parle justement de tout ce qu'elle a essayé de faire pour aller mieux. On a André Manoukian, parce que le bien-être passe aussi par la culture et donc par la musique.
Ouais.
On a Guimet Odissino, parce que le bien-être passe par la culture et par le cinéma.
Journaliste à Télérama.
Absolument. Et donc, qui nous donne des astuces et des idées de films pour vivre des bons week-ends.
Et vous oubliez le psy ?
Ah ben, non, mais Christophe André. Non, mais parce que je gardais pour la fin.
Ah, d'accord.
Christophe André, la chance qu'on a de l'avoir chaque semaine. Il faut quand même savoir que moi, pendant 5 ans dans les maternelles, j'ai essayé de l'avoir 3 minutes par Skype. Et j'ai jamais réussi. Donc, je me pince tous les jours.
Ah oui ?
Mais rien que de le regarder, de toute façon, on se sent mieux. Hein.
Tiens, c'est une bonne question. Pourquoi il a dit oui, alors qu'il refusait tout ?
Alors, je pense que c'est parce qu'il travaille déjà avec Ali Rebeyi, que donc il était en confiance. Après, il a testé, il s'était pas engagé pour venir toutes les semaines. Et il a trouvé que l'émission était haut de gamme, ce qui est vrai.
Chaque numéro a un thème. Le thème de samedi, c'est...
Le rire.
Voilà. Au passage, dans l'émission sur le rire, j'ai bien aimé le nom des gens qui font les reportages. Il y en a un qui s'appelle Gollery, et il y a Brice Laborieux. Donc, je dis, vous les faire exprès, vous n'arriverez pas. L'émission spéciale rire, je vais démarrer comme vous, elle démarre par un bêtisier. Normalement, les bêtisiers, on les met à la fin, là, vous le mettez dès le début. Pourquoi il y a un bêtisier ? Parce que votre émission n'est pas en direct. Donc,
absolument.
Il y a plusieurs reprises, vous enregistrez, parfois, il y a des retakes, extraits.
On n'avait que 7 minutes de débord, en plus.
Ouais, c'est... moi qui suis en train de faire une occlusion urinale. Je dois respirer profondément, là, je vous jure, ça va pas. J'ai l'impression d'avoir un petit camelto, là, mais vous me le direz.
Un quoi ?
Je t'expliquerai.
Vous en voulez une autre ou pas ?
Non, on n'a pas besoin, car pour une fois, tu l'as faite du premier coup. Je vais te dire.
Quelle raclure.
Franchement, ça fait du bien, c'est tellement rare. T'as pas bafouillé, ça change ? Heureusement que t'as ton physique, mon pote.
Mais non, mais j'ai les mains qui me...
Hein, parce que dans la tête, il n'y a pas grand-chose, non ?
Wow. C'était un gars qui avait dit ça à une fille.
Et dis donc, heureusement, hors contexte, ça peut prêter à confusion.
Ah
hein.
Bah c'est pas hors contexte, c'est votre émission et c'est le démarrage de votre émission.
Oui, donc on est d'accord.
Donc on est totalement
mais
dans le contexte.
Là, on est hors antenne.
Mais vous l'avez diffusé, donc c'est à l'antenne. Et justement, le psy Christophe André raconte quelque chose de très intéressant. Il fait la différence entre l'autodérision positive et l'autoflagellation négative.
Mmh.
Et là, on est dans l'autodérision.
On est dans l'autodérision et j'ai la chance d'avoir un partenaire, Ali Rebeyi, qui a, je dirais, tous les outils pour qu'on puisse faire ça, qui me le rend bien et je trouve que c'est une énorme preuve d'intelligence. Et c'est ce qui fait aussi que j'adore faire cette émission.
Dans l'émission de samedi, qu'on verra donc demain matin, consacrée au rire, il y a Sylvie Chocron qui parle, elle est neuropsychologue, mmh. Elle est directrice de recherche au CNRS. Vous lui posez des questions et elle vous répond, et notamment... Elle compare, à votre demande, le rire au sexe.
On l'a dit tout à l'heure, le rire et le sexe sont intimement liés.
Alors justement, alors ça...
C'est vrai, on a vu aussi que le rire et l'urine étaient intimement liés. Sylvie Chocron... Oui, non mais vous savez, on en apprend vraiment tous les... Enfin, non pas tous les jours, mais vraiment chaque samedi sur France 2. Sylvie Chocron, plus sérieusement, pourquoi est-ce que le sexe et le rire sont intimement liés ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, je dirais pas le rire et le sexe, plutôt le rire et la séduction.
Ouais.
C'est plutôt ça.
Ouais,
c'est...
Ah ben d'accord, parce que mais alors c'est André qui m'a menti.
Parce que le rire est vraiment une arme de séduction vraiment fatale, quoi. Et on, non seulement on dit qu'une femme qui rit lorsqu'elle est avec son partenaire a toutes les chances, voilà, de se lancer dans une relation avec lui. Mais
vous
on
le
dit
tellement
aussi...
joliment, alors qu'on a tous la vraie expression en tête.
Mais on dit aussi que les couples qui rient ensemble ont une longévité plus grande.
Ah,
et de manière générale, de toute façon, le fait de rire augmente la durée de la vie, déjà, tout seul.
Il y a beaucoup d'infos dans cette émission. Un chiffre qui fait froid dans le dos. En 1950, dites-vous, les Français riaient en moyenne 19 minutes par jour et maintenant ce chiffre est passé à une minute seulement. Et autre chose, c'est à la présentatrice de la Maison des Maternelles que je m'adresse. Le rire, explique un psy, favorise l'intelligence et il ne faut jamais dire à un enfant qu'il rit bêtement.
Ah c'est vrai, bah écoutez, je savais pas, vous m'apprenez quelque chose.
Ah bon, bah c'est dans votre émission. Vous restez avec nous, Agathe Le Caron qui présente bel et bien et vous entendrez ce passage-là demain samedi sur France 2 et on la retrouve dans quelques minutes dans Culture Média, tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Agathe Le Caron, présentatrice de la Maison des Maternelles, mais qui incarne une nouvelle émission. Elle co-incarne, c'est présenté, co-présenté avec Ali Rebeyi, s'appelle Bel et Bien. C'est sur France 2 le samedi matin à 9h55 exactement. C'est la première émission bien-être à la télévision, en tout cas sur le service public. Alors cette semaine, c'est une spéciale rire qui va passer demain samedi. Vous expliquez tous les bienfaits du rire sur le corps humain, du point de vue musculaire, du point de vue physiologique, mais également du point de vue neurologique, cérébral. Samedi dernier, vous avez fait une spéciale danse. Oui. Vous expliquez tous les bienfaits de la danse sur le corps humain, du point de vue musculaire, du point de vue physiologique, mais également du point de vue neurologique et cérébral. J'ai pas vu la spéciale marche, mais à mon avis, vous avez expliqué les bienfaits de la marche.
Ah bah les bienfaits de la marche, ils sont innombrables. Voilà. Alors ça, pour le coup, moi maintenant, je marche.
C'est vrai ?
Bah grâce à cette émission.
Comment ça, vous marchiez pas avant ?
Non, je ne marchais pas. J'étais en voiture. Bah, moi, je me garais le plus près possible des trucs. Je suis une énorme flemmarde.
C'est pas
et maintenant,
vrai.
Je me gare le plus loin possible.
Il y a une phrase extraordinaire de Jean-Luc Godard qui dit « Les débats à la télé, ça ne sert à rien. » Puisqu'à la fin, personne ne change jamais d'avis. Et j'ai vu tellement de présentateurs télé ne pas suivre les conseils qu'ils donnaient pendant deux heures que ce que vous venez de dire sur la marche me fait plaisir.
Alors moi, je m'abreuve de conseils et dans les maternelles et dans Bel et Bien.
Au-delà de la blague, comment sortir des clichés ? Comment faire du neuf avec des sujets aussi battus et rebattus, et je ne vous le reproche pas, que la danse, le rire ou la marche ? Bah comment déjà, construire une émission et comment intéresser les gens ?
Déjà, c'est quand même une matière qui est en mouvement. Hein. On a entendu tout à l'heure Sylvie Chocron qui est une chercheuse, donc on a des scientifiques qui viennent avec des et à grand renfort d'études pour nous dire, bah tiens, on a découvert récemment que, justement, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas dire à son enfant de rire bêtement. Comme tout ça est en mouvement, c'est très bien. Et puis là, ce qu'on apporte, bah, c'est tout simplement une émission télé sur le bien-être, parce qu'il n'y en avait pas.
Ça, c'est vrai. J'ai appris des choses dans l'émission de la semaine dernière. Vous avez dit que vous ne savez pas danser.
Ah, voilà.
Moi non plus.
Dramatique.
Eh bien, analyse d'André Manoukian qui ne sait pas danser, qui dit que c'est parce qu'il est musicien. Les musiciens écoutent les notes et se concentrent sur les arrangements, ce qui est mon cas. Vous êtes musicienne ?
Je serais plutôt chanteuse.
D'accord. Donc, vous ne savez pas danser tout court. Les prochains thèmes, vous les connaissez ?
Alors, les prochains thèmes, qu'est-ce qui va arriver ? Oh là là, non, je ne sais pas. Dites donc, bon, là, vous me posez une colle.
Les audiences ?
Elles sont vachement bien.
Ah, vous les connaissez ?
Oui, enfin, je ne les connais pas par cœur, mais je
alors,
sais que c'est bien.
Alors, je vais expliquer. Le samedi matin, ce n'est pas une case énorme. Il n'y a pas beaucoup de monde devant la télé. En contrepartie, la concurrence est moins vive. Combien vous faites ?
Non, je sais qu'on a fait 9% il n'y a pas très longtemps.
La
ça,
pointe,
c'est vachement bien.
La pointe, 9,1% de part d'audience, alors qu'en général, la case était à 7,5%, donc vous avez augmenté l'audience. Mm-hmm. Et 400 000 téléspectateurs, c'est pas rien.
Non, c'est vachement bien. C'est vrai que c'est une case difficile le samedi matin. Les gens partent faire leurs courses, voilà, s'occupent des enfants. Donc on est très heureux. Mais c'est normal, c'est une émission qui est tellement intelligente. Voilà, pardon, hein, c'est moi qui la présente, c'est pas moi qui la fabrique. Donc je peux le dire assez facilement. Mais non, mais c'est vrai, c'est un concentré d'intelligence, de bonne humeur. Enfin voilà, je pense qu'elle remplit totalement son rôle.
La maison des maternelles, donc ça existe toujours. Je vous pose la question parce qu'en ce moment, c'est Lumni d'abord. La maison des maternelles, elle était sur France 5. Mm-hmm. Vous en êtes à votre 19e saison, puis elle est passée sur France 4 tous les jours le matin. Mais en ce moment, il y a Lumni à cause du confinement, à cause des vacances.
Bah, France 4 a cette mission-là en période de crise. Et quand les écoles ferment, c'est normal que
l'éducation.
Lumni... Voilà, que l'éducation... Cela dit, la maison des maternelles, c'est de l'éducation. La maison des parents, c'est de l'éducation aussi. Donc tout ça est très cohérent. Mais là, pour le coup, on soulage un peu les parents sur France 4, c'est pas mal le matin.
Vous reprenez quand ? Vous reprenez en septembre ? Vous reprenez en mai à la fin des vacances ?
Non, on reprend en mai. Et puis surtout, on a tourné déjà pas mal d'émissions inédites qui reviendront de toute façon en diffusion début mai.
Comment sont les audiences ? Vous les connaissez ou pas ?
Oh, les audiences, cette année, c'est un petit peu compliqué parce que France 4, c'est un peu plus discret que France 5. Disons qu'il faut zapper 9 chaînes de plus pour tomber dessus. Donc, mine de rien, ça compte.
Elle est plus loin sur la TNT.
Mais de toute façon, ce sont des émissions qui se consomment un petit peu différemment d'une émission comme Bel et Bien. C'est-à-dire qu'on les consomme sur les réseaux, on les consomme en replay, on les consomme, par exemple, la maison des parents. Si on fait une émission sur les 10, donc les dyslexiques, les dyspraxiques, etc., on regarde si on est concerné ou si on a un doute. Donc, on va la consommer différemment.
Vous avez signé pour la saison prochaine. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire en septembre ?
Je sais. Alors, Bel et Bien, ça, je sais que ça continue en septembre. Et alors là, mais je fais des pas chassés volants de bonheur parce que je suis tellement heureuse dans cette émission. Et je suis tellement heureuse dans les maternelles et les parents que je prie pour que ça continue. Sous quelle forme ? Sur quelle chaîne ? Ça, je ne sais pas.
Et est-ce que peut-être vous avez des infos que moi, je n'ai pas, puisqu'on annonce la disparition de France 4 après celle de France O.
Et oui.
France 4, canal 14 de la TNT qui a été sauvé par la pandémie. Vous avez des infos ? Qu'est-ce qu'ils vous disent à France Télévisions, vos chefs ?
Alors, en tout cas, la présidente Delphine Ernotte nous avait beaucoup rassurés quand on est passé sur France 4, puisqu'on avait des inquiétudes légitimes en apprenant ça. Donc moi, je suis assez confiante, parce qu'elle a... conscience que c'est une émission d'utilité publique.
Non, mais est-ce qu'elle sait si la chaîne va perdurer à la rentrée ?
En tout cas,
est-ce qu'elle vous a dit j'ai parlé au ministre, j'ai parlé au président et ça va continuer en septembre ?
À la conférence de presse fin janvier, elle a confirmé que la chaîne s'arrêtait au moment M. En tout cas, c'était les dernières infos. Après, voilà, moi, je ne sais pas.
C'est quoi le moment M ?
Bah non, je veux dire, le moment M, c'était le moment fin janvier où elle a dit ça. On peut dire qu'à fin janvier, en tout cas, la chaîne s'arrêtait. Après, on sait bien que tout ça est en mouvement. Et puis, France 4 prouve encore aujourd'hui qu'elle a une utilité publique aussi.
La maison des maternelles, ça marche très fort sur le web et pas qu'un peu. Là, c'est en millions.
Ah, c'est en millions.
Certaines vidéos, c'est en millions.
C'est en millions, oui. Bah, c'est fou. On a un écosystème, en fait, dans la maison des maternelles et la maison des parents, totalement complet. On a les réseaux sociaux, évidemment, sur lesquels, vous le disiez, on est super puissant. On est plus de 2 millions, je crois, à échanger chaque matin. On a un site internet dédié, ce qui est très rare, où on retrouve d'autres ressources, on retrouve les reportages, etc. On a un podcast et on a l'émission télé. Donc, on a vraiment voilà, un écosystème à 360 degrés.
En 2018, Agathe Le Caron, vous avez créé votre marque de vêtements pour les tout-petits. Elle s'appelle Ronron, elle existe toujours ?
Bien sûr,
ouais, bien sûr. Bon,
maintenant, couler, c'est pour toute la famille.
C'est pour toute la famille.
Je vous habille, si vous voulez.
Comment ? Non, je suis très bien comme ça, moi.
Bah
j'ai
non,
pas besoin.
Vous n'êtes pas assez coloré.
Comment ? Bah, c'est un choix. en fait, je veux dire pourquoi je vous pose cette question. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup parlé des audiences. Normalement, je pose moins de questions sur les audiences à mes invités. Parce que quand vous avez créé cette marque, vous avez dit « je la crée pour trouver un plan B ». Et arrêtez de mettre la rate au courbouillon pour les audiences.
Ah mais c'est vrai. Mais
donc ça a fonctionné. Puisque là, vous connaissez plus vos chiffres et je vous reconnais pas. Parce qu'avant, vous connaissiez vos chiffres par cœur.
J'étais le matin, j'ai un mari qui travaille sur une chaîne concurrente et donc il a accès aux audiences. Le matin, j'osais même plus lui demander. Tellement j'avais mal au ventre en disant « oh là là, mais si l'émission continue pas ». D'abord parce que j'aime ce que je fais profondément. Et puis parce que j'avais peur de plus avoir de boulot. Voilà. Donc je me suis dit, je vais créer quelque chose qui va détourner mon attention. Ça a marché.
Voilà, le mari. Parce que tout le monde s'est dit, mais qui est le mari d'Agathe Caron ? C'est le patron des sports de TF1, François...
Ce n'est pas Attic.
François Pélissier. Vous avez créé un podcast qui s'appelle Ex. Ouais. Je pense à votre mari, ça parle de vos ex ?
Non, pas du tout, c'est pas moi qui parle déjà. Vous pensez beaucoup à mon mari à chaque interview.
Non, mais c'est comme ça, parce que c'est vous qui en avez parlé la première.
Non, c'est vrai. Ah,
j'en aurais pas parlé, vous n'en avez pas parlé, j'en aurais pas parlé.
C'est vrai. Mais à coup pas. Non, ce sont des gens qui viennent témoigner de leurs histoires d'amour extraordinaires. La dernière en date, c'est une histoire d'amour avec un condamné à mort au Texas. Donc c'est vraiment des histoires d'amour incroyables, sans filtre, sans question. C'est juste le témoignage brut, je suis très fière de... Voilà. Le ex.
Et maintenant, on va entendre le bêtisier d'Agathe Le Caron. Mais non, je déconne. Merci beaucoup, Agathe Le Caron. Mais non, on l'a pas. On fait
aussi.
Pas ça, nous. Nouvelle émission, ça s'appelle
C'est mon petit générique, là, qui est tellement bien.
Vous savez qui c'est ?
Ben
moi,
non,
je sais
même
parce qu'on l'a dit.
Je sais même pas, c'est honteux.
C'est Jérémy Hébert, le réal de l'émission, aujourd'hui, qui me l'a dit. C'est Doja Cat, et ça s'appelle Say So.
Je pensais que c'était André Manoukian qui l'avait composé, voyez.
Comment ? Il vous a fait croire ça ?
Non, mais vous savez, il me fait tellement rêver.
Manoukian. Merci beaucoup, Agathe Le Caron.
Merci.
Culture Média qui continue dans un instant. Il y aura le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un nouveau programme signé Grand Corps Malade. Et Jean-Luc Lemoine pour sa dernière de la semaine, sa séance de rattrapage avec son écran de veille. Notre invité, c'est la comédienne, chanteuse, humoriste, youtubeuse Lola Dubilly pour son premier album. Il s'appelle Je te le dis. Il y aura le portrait inattendu d'Hélène Manarino, portrait de Lola Dubilly évidemment. Et puis dans Les Indispensables, une série spéciale télétravail et des chefs étoilés en dehors de leur zone de confort. Aucun rapport avec un chef dont on parle beaucoup trop en ce moment dans les médias. Tout de suite.
Europe 1, Culture Média.